Vous écoutez, on lit pour vous.
Le bénévolat en perte de vitesse. Un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 24 juin 2025 dans La Presse. L'engagement bénévole est en chute depuis quelques années au pays, selon une nouvelle étude de Statistique Canada qui montre du doigt les effets pervers de la pandémie et l'inflation. À Montréal, des organismes admettent que certaines choses doivent changer, mais croient que la fibre sociale n'est pas éteinte pour autant. De 5 à 4 milliards d'heures. Au total, le nombre d'heures consacrées au bénévolat est passé de 5 milliards en 2018 à 4,1 milliards en 2023. Cela représente une baisse de 18 % sur 5 ans. La baisse est encore plus forte quand on regarde uniquement le bénévolat encadré, c'est-à-dire au sein d'organismes. Le temps consacré à aider sa communauté a chuté de plus de 40 % en une décennie. En moyenne, les personnes ayant fait du bénévolat y ont consacré 173 heures il y a 2 ans, alors que c'était plus de 200 auparavant. Pour l'heure, 73 % des Canadiens offrent de leur temps à un moment ou un autre. Ils étaient 8 sur 10 à le faire en 2018. C'est surtout chez les femmes que cette baisse se fait sentir, avec une chute de 21 % en quelques années. COVID-19 et inflation. En guise d'explication, les auteurs du rapport notent que les dernières années ont été marquées par des défis sans précédent pour tout le secteur du bénévolat. Ils rappellent, par exemple, que les répercussions découlant de la pandémie de COVID-19, au nombre desquelles figure une augmentation de la demande de services, ont contribué aux pressions exercées sur ce secteur, tout comme l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre. C'est chez les 25-34 ans, autrement dit les jeunes professionnels et étudiants, que le nombre d'heures de bénévolat a le plus baissé, avec une chute de 42 % du nombre d'heures annuelles. L'engagement se transforme. Au Centre d'action bénévole de Montréal, CABM, la directrice générale, Geneviève Fecteau, dit surtout sentir une transformation de l'engagement. On voit vraiment moins de long terme. Que ce soit les jeunes ou les gens au début de leur retraite, c'est souvent plus le travail rémunéré qui est priorisé si les finances sont serrées, dit-elle. Selon elle, la fibre sociale n'est pas éteinte pour autant. On a encore plein de gens qui s'engagent, mais les besoins sont peut-être plus spécifiques qu'avant. Donc, il faudrait aussi aller un peu plus vers les bénévoles, comprendre leurs enjeux, leur réalité. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de grands galas pour se sentir reconnus. Ils veulent surtout sentir qu'ils font une différence, qu'ils font partie d'une équipe. Forme de compétition. Dans l'Est de Montréal, le directeur général d'Accès bénévolat, Daniel Durand-Lot, remarque aussi une baisse de l'engagement de longue durée depuis quelques années. La pandémie a coupé certains élans, c'est certain. Mais il y a aussi le fait que les organismes ont beaucoup développé leur recherche de bénévolat de façon directe, sur leur site ou leur infolettre. Donc, il y a une forme de compétition qui s'est installée avec certaines formes de bénévolat plus recherchées que d'autres, note-t-il. Son groupe dit travailler à trouver le bon jumelage pour chaque personne. Le défi, ce n'est plus seulement de recruter, c'est de retenir les bénévoles dans un monde où l'engagement est moins fort qu'autrefois, note-t-il. Les grands bénévoles toujours présent. Une chose reste néanmoins certaine. Les grands bénévoles, soit les 10 % qui contribuent le plus en matière de nombre d'heures, sont toujours au rendez-vous. En 2023, ils ont effectué à eux seuls plus de la moitié, 61 % de l'engagement au Canada. Leur nombre d'heures n'a d'ailleurs pas diminué de façon significative, contrairement à la majorité des autres catégories de bénévoles. Même son cloche du côté des grands donateurs qui ont versé 9,5 milliards de dollars à des organismes de bienfaisance, d'après les données les plus récentes, soit 71 % du total, une proportion qui est demeurée, somme toute, stable par rapport à 2018. Dans la population générale, les dons ont toutefois affiché un recul de quelques points de pourcentage. C'était le bénévolat en perte de vitesse. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 24 juin 2025 dans La Presse.
Des Billot et Juliette. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse. Le Québec compte plus de 500 municipalités avec des noms de saints ou saintes. Mais qui se souvient des personnages qui ont inspiré ces toponymes? Dans cette série estivale, La Presse va sur les traces de cet héritage catholique. L'industrie forestière emmène large à Saint-Pamphile. Mais derrière la façade, certaines femmes emmènent encore plus large. Nom Saint-Pamphile. Population 2275. Année de fondation 1888. Il y a de l'action ce matin à Saint-Pamphile. Quand on débarque dans cette petite ville de 2275 habitants, impossible de manquer les montagnes de billots et le balai des camions et des grues qui s'agitent dans tous les sens. Ici, c'est l'industrie forestière qui domine et ça se voit. À 1 kilomètre de là, il y a la frontière américaine et l'État du Maine. Une grande partie du bois coupé et transformé est acheminée par camion jusqu'aux États-Unis. Le secteur représenterait environ 70 % des emplois dans la municipalité. Autant dire que l'augmentation de droits de douane annoncée par le gouvernement américain, plus de 34 %, risque d'avoir un impact sur les entreprises locales. Et l'on ne compte pas la menace de taxes supplémentaires brandie par le président Trump. Au total, on parle de près de 60 % en plus sur les exportations, ce qui a de quoi susciter l'inquiétude. Interrogée sur ce point, la conseillère municipale Marlène Bourgault tempère. Elle fait valoir que plusieurs entreprises dans la région ont des antennes aux États-Unis, ce qui devrait limiter les dégâts. En revanche, ce sera peut-être plus compliqué pour les compagnies de transport si ce scénario noir se concrétise. Mais pour l'instant, aucun signe extérieur de ralentissement. Sur le chantier de la société Dacam, situé à un jet de pierre de la mairie, non seulement il y a de l'action, mais il y a un immense panneau « Nous embauchons » planté à l'entrée du site. Ces dernières années, ce besoin de main-d'œuvre s'est traduit par l'arrivée de travailleurs étrangers. Guatémaltèques, Mexicains, Philippins, Mauriciens et Ivoiriens sont venus pour pourvoir des postes. Certains auraient même pris racine et fondé des familles. Il y a aussi des gens de la ville qui viennent prendre leur retraite et des jeunes qui font du télétravail, ajoute Francine Couette, également conseillère municipale. Selon elle, beaucoup de gens sont attirés par le calme de la région et la palette de services offerts par la municipalité, du supermarché aux écoles en passant par la piscine, l'aréna ou le CLSC. Cet afflux bien réel a cependant un coût. Pour absorber tout ce beau monde, la ville est en train de faire construire une vingtaine de nouveaux logements, ce qui sera insuffisant pour répondre à la demande. Il y a une quarantaine de noms sur la liste d'attente, souligne Mme Bourco. Merci, Juliette. L'autre chose à noter, c'est que Saint-Pamphile est assez dynamique sur le plan culturel. Outre le Festival du Bûcheux, inauguré il y a 42 ans, la petite ville compte une troupe de théâtre ainsi qu'un centre culturel qui a élu domicile dans une ancienne manufacture de jeans. Lors de notre visite, on y présentait une exposition temporaire sur les femmes importantes dans l'histoire locale, chacune ayant droit à son hommage sur une affiche rose en carton. C'est là qu'on a appris l'existence d'une certaine Juliette Dupont, 1932-2015. Bien qu'elle soit morte depuis 10 ans, cette ancienne enseignante semble avoir laissé un souvenir impérissable dans la municipalité. Outre l'hommage qu'on lui fait dans l'expo, une peinture d'elle est accrochée au mur du local des archives. Reconnaissance suprême, il y a même une rue à son nom dans la ville. Si on a bien compris, c'est un peu grâce à elle si le visage de Saint-Pamphile ne se limite pas aux grues et aux billots de bois. Intarissable, Marlène Bourgault et Francine Couette nous expliquent que cette femme d'action a fait beaucoup pour le tourisme et surtout pour l'embellissement de la municipalité en créant notamment un comité Floralie, un jardin municipal et un arboretum. Elle a été ma mentor, lance Francine presque émue. Malgré son impact, Juliette Dupont n'a cependant jamais été mairesse. Elle n'a jamais voulu, lance Francine dans un mélange d'étonnement et d'admiration. Mort décapitée après tous ses amis. Et notre saint dans tout ça? Eh bien, voici. Selon ce qu'on sait, la municipalité porterait ce nom en l'honneur de Pamphile Gaspard Véro, 1832-1906, et non d'une tête auréolée. Pour la petite histoire, Pamphile Véro était un agriculteur, un notaire et une personnalité politique qui a été maire de Saint-Jean-Port-Joli et député conservateur de Lillet en 1867, circonscription du futur Saint-Pamphile. Ce qui ne nous empêche pas de vous parler de Pamphile le Saint, parce que quand même, c'est du lourd. Martyr de son état, cet homme est mort décapité en 309 après Jésus-Christ dans une scène somme toute assez brutale. Pamphile tenait une école théologique à Césarée, en Israël, près du Tel Aviv actuel. Victime de persécutions sous le règne d'un gouverneur cruel, il est arrêté en 307. Après 2 ans d'emprisonnement, comme il refuse toujours de renier le christianisme même sous la torture, on décide de l'exécuter. Cependant, il devra d'abord endurer le sacrifice de ses compagnons Valence, Paul, Porphyre, Séleucus, Théodule et Julien. Parce qu'il a osé réclamer à l'avance le corps des martyrs, Porphyre est le premier à y passer. Séleucus court annoncer la nouvelle à Pamphile, mais il est exécuté à son tour. Puis c'est au tour de Théodule, puis de Julien, qui a osé s'approcher trop près du lieu des assassinats. Pamphile sera le dernier à être exécuté, en se faisant couper la tête. Selon ce que rapporte le site Sanctoral, son corps restera exposé toute la nuit à l'endroit même du supplice. Mais, aucun animal ne s'étant approché pendant la nuit, les fidèles purent lui donner une sépulture honorable. Ce miracle ultime explique qu'on a pu récupérer ses reliques. Ces dernières auraient été utilisées pour la consécration de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople en 537 après Jésus-Christ. Où sont-elles aujourd'hui? Mystère. Certaines pistes nous mènent à Paris, mais de ce côté, les infos sont contradictoires. Une autre recherche nous apprend qu'il n'y a pas de source disponible pour le savoir. Cela ne nous empêchera pas de dormir. La semaine prochaine, Sainte Euphémie. Point d'intérêt. Le Festival du Bûcheux est un incontournable dans la région avec 3 jours de compétition forestière. Scier, corder, fendre, lancer la hache, précision avec une chargeuse, scie modifiée, alouette. Dernier week-end avant la fête du travail. C'était Des billots et Juliette, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.
Dacla sous ma fenêtre. Un texte de Monique Durand paru le 12 juillet 2025 dans Le Devoir. En cette époque de fracas et de désordre, notre collaboratrice ouvre des carnets portant sur l'idée de désert. Au gré de ses routes récentes, elle nous fait pénétrer dans des immensités de sable, de neige et de mer, antidote à l'agitation du temps. Avril 2025. Juste avant le lever du soleil, du haut de son minaret, le muezzin fait entendre son premier appel à la prière avec une voix un peu caverneuse. La ville est encore endormie. Les coudes appuyés à la fenêtre, je vois l'aube paraître dans une fine poussière de sable. Senteur un peu ambre, résine, pain grillé. Est-ce cela l'odeur du désert? J'écris ces mots du petit hôtel où je séjourne à Dacla, ville construite sur la frange ouest du Sahara, au cœur de cette partie du monde appelée le Sahara occidental, à l'extrémité sud du Maroc et au nord de la Mauritanie. Un bout du monde, oui, mais un bout du monde peuplé. Je m'attendais à une sorte de chefferville du Sahara, quasi inhabitée. Je me trompais. Avec ses 200 000 habitants, Dacla est la deuxième ville du Sahara occidental, lequel compte 600 000 habitants. Il fait frais. Le disque laiteux qui se lève sur la cité retrouvera bientôt ses couleurs de flamme, écrasant le jour de son poids incandescent. Au milieu de chants d'oiseaux qui me sont inconnus, je crois distinguer, dans l'air sec, un peu des parfums de la mer qui n'est pas loin. Tout volait en cette contrée. À présent, montent jusqu'à ma fenêtre les échos de la rue, voix, motos, autos, camions. Des hommes vont au travail, d'autres au café. Des femmes se promènent avec une ribambelle d'enfants qui sautillent. Elles sont vêtues de pied en cap d'étoffes de soie aux couleurs chatoyantes qui volent au vent. D'ailleurs, tout volait en cette contrée. Voiles des femmes, plumes des échassiers qui y hivernent, fumée des tagines, souffle du ciel et de la mer. Et puis, pas très loin de Dacla, il y a ces centaines de papillons humains qui fendent le ciel toutes voiles dehors. L'endroit, réputé pour ses brises puissantes et une mer relativement calme, se présente comme la capitale mondiale du kitesurf. Il faut voir certains jours ces grands cerfs-volants tractés par le vent, cette tapisserie d'humains oiseaux s'offrant à l'air et à la mer. Toujours à ma fenêtre, je vois Ali, comme chaque matin, aller chercher une omelette au café d'à côté. Il est réceptionniste à l'hôtel. Il aime la vie à Dakhla, en pleine expansion, dit-il. Il y est venu de son Marrakech natal pour y trouver un emploi. Dakhla, dont la population a doublé depuis 10 ans, vit un véritable boom depuis que le roi du Maroc, Mohamed VI, a décidé d'en faire une sorte de Baie James du Sud. Travaux pharaonesques créant des milliers d'emplois. Incidemment, le salaire moyen au Maroc est d'environ 640 dollars canadiens par mois. Plus important projet en chantier, un grand port atlantique qui désenclavera 3 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, leur donnant accès à l'océan pour leur commerce. L'aéroport actuellement situé en pleine ville sera déménagé. Un nouvel hôpital verra le jour et un grand musée sur la culture du désert. Le royaume chérifien accueillera la Coupe d'Afrique de soccer à la fin de cette année et la Coupe du monde en 2030. Fous de ce sport, les résidents du Sahara occidental espèrent bénéficier aussi des retombées touristiques des 2 événements. Alors, à Dakhla, on pave, on balaie, on astique, on fleurit, on construit. Nouvel appel à la prière, quand le soleil atteint son zénith, celui de la mi-journée. J'ai quitté ma fenêtre pour voir la cité saharienne. La grande majorité des voyageurs et des touristes n'y mettent jamais les pieds. Amenés directement de l'avion au lieu qu'ils convoitent, le désert et la mer. Mohamed, mon guide, d'une patience d'ange, car j'arrête à tous les poteaux, m'emmène voir la plus ancienne mosquée de la ville, puis l'église chrétienne construite par les Espagnols, ensuite le musée d'artisanat et le souk aux couleurs de fraises, de mangue et de clémentine. Nous cheminons sur les grandes artères longeant la mer, où abondent hôtels et restaurants, et dans les quartiers plus populeux et modestes, où véhicules et charrettes tirées par un âne coexistent dans un joyeux chaos. Dakhla est un carrefour entre l'univers méditerranéen et l'univers subsaharien. On y parle le berbère, l'arabe et l'espagnol, contrées où se croisent des influences plurielles, traditions berbères, apports marocains et espagnols et cultures des autochtones sahraouis, aussi appelés bédouins, ces nomades du désert pour la plupart aujourd'hui sédentarisés. Un statut contesté. Le Sahara occidental a une histoire, elle aussi plurielle, et un statut contesté, étant revendiqué à la fois par le Maroc et la République arabe sahraoui, démocratique, RASD, contrôlée par le Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. 1975. Le territoire, occupé par l'Espagne, est cédé au Maroc et à la Mauritanie par les accords de Madrid. Ces accords font suite à la célèbre Marche verte dont c'est le 50e anniversaire cette année, une manifestation pacifique à laquelle ont répondu 350 000 Marocains pour marquer symboliquement la souveraineté de leur pays sur le Sahara occidental. Conséquence, une guerre éclate entre le Maroc et le Polisario qui fera plus de 16 000 morts. 1991. Les belligérants signent un accord de cessez-le-feu qui prévoit un référendum d'autodétermination des habitants du Sahara occidental sous l'égide de l'ONU. Ce référendum n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, le Maroc contrôle 80% du territoire contesté, alors que le Polisario en contrôle 20%. 2007. Le Maroc présente à l'ONU un plan de large autonomie pour le Sahara occidental avec un parlement régional élu, mais dans le respect de la souveraineté nationale marocaine. 2020. Coup de théâtre. Donald Trump reconnaît au Maroc la souveraineté sur le Sahara occidental soulevant la fureur de l'Algérie qui coupe tout lien avec le Maroc. La France d'Emmanuel Macron suivra le même chemin, provoquant l'ire d'Alger. Résultat, Marocains et Algériens qui partagent la même langue et la même religion se regardent maintenant en chiens de faïence. Les relations entre Paris et Alger se sont envenimées. La détention en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour atteinte à l'unité nationale s'inscrit dans ce cambouis algéro-franco-marocain. Âgé de 80 ans, le détenu critique depuis des lustres le gouvernement algérien et l'islamisme. 2025. L'histoire s'accélère. Le plan d'autonomie du Maroc bénéficie d'appuis de pays de plus en plus nombreux, tandis que le Polisario s'affaiblit. Pour la première fois depuis 50 ans, peut-on lire dans le magazine Jeune Afrique, les conditions semblent réunies pour une résolution du conflit. Le soir est tombé, avec le dernier appel à la prière, après le coucher du soleil. Tandis que la terre de lumière s'éteint doucement, je hume l'air du temps sur le boulevard qui longe la côte. Je me rends à la Maison Jaune, où je suis convié, une maison d'hôte où Sana nous accueillera avec un tagine affriolant. Une lune quasi pleine s'est fixée au haut d'un palmier. Deux femmes sont assises face à la mer et à la ligne rose du désert, là-bas au loin. Elles caressent un chat, lui aussi anesthésié par la quiétude du moment. Composer avec l'infini n'est pas donné à tout le monde, écrit Jean-Pierre Valentin. Est-ce cela l'esprit du désert? De retour à l'hôtel, me voici à nouveau perché à la fenêtre. Le café d'à côté hurle sa joie chaque fois que le Real Madrid compte un but contre l'Arsenal de Londres. Innocemment, je me joins bientôt à la fête, seule femme à bord. Le patron m'offre un jus. Sa petite fille, souriante, vient me reluquer avec de grands yeux surpris. Elle ne semble pas en revenir. Une femme au café! Et criant avec tout le monde pour le Real Madrid. Heureux ce Sahara où le jour et la nuit balancent si simplement les hommes d'une espérance à l'autre. C'était Dakla sous ma fenêtre, un texte de Monique Durand, paru le 12 juillet 2025 dans Le Devoir.